présente personnellement, Jens, CNT, donc conseiller du salarié également.
Salah, du syndicat de l'informatique CNT et indépendant.
Et Karine, du syndicat de l'informatique aussi, et indépendante aussi. Donc on est là pour parler de la surveillance au travail.
Mais donc là, on voit dans quelle mesure donc les patrons ou donc les employeurs plus en général contrôlent donc tous les moyens actuels disponibles, c'est-à-dire boîte de mail, aussi bien que donc la téléphonie interne, téléphonie vers l'extérieur, en appel sortant, en appel entrant, et également sur les propres téléphones personnels. Donc ils ont un pouvoir de regard sur tous ces éléments-là, qui aujourd'hui sont quand même importants à savoir et à connaître, quelles sont leurs limites et les moyens d'action qu'on a nous-mêmes. Donc déjà, je pense qu'on pourra commencer par la première partie qui est donc assujettie, je dirais, à quasiment tout le monde aujourd'hui, dans le monde du travail, hein, c'est les mails. Hein. Donc la première partie qu'on voudrait mettre en évidence. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Suite à l'individualisation de tout le personnel, donc l'importance du mail devient de plus en plus importante dans les sociétés. On communique même vis-à-vis de notre hiérarchie, même s'il est à 5 mètres de distance, par mail. Donc il faut savoir qu'il est très, je dirais, très important de savoir ce qu'on met dans un mail. Déjà de rester le plus neutre possible, que ce soit jamais utilisé à notre encontre. Donc ça, c'est déjà la première chose. Quand vous écrivez un mail, il faut toujours penser en soi-même, comment est-ce que ma direction pourra l'utiliser.
D'ailleurs, je ne sais pas si tu as eu le... si dans ta boîte ça se passe comme ça, mais je pense que à peu près toutes les personnes qui bossent dans les SS2I ou autres, tes patrons, quand il y a un échange de mails, ils font quand tu bosses avec différents services ou avec différentes personnes, ils font protège-toi en mettant tel truc dans le mail. Enfin, c'est-à-dire qu'eux-mêmes les patrons, les chefs de projet parlent tout le temps du mail en disant protège-toi, mais si, mais ça et tout quoi.
Exactement.
Par rapport à l'extérieur.
Ah non, même par rapport en interne.
En interne.
Quand je bossais, quand la technique bosse avec les commerciaux, il faut bien que tu demandes, enfin que tu dises, voilà, t'as fait ci, c'est ça. On parle tout le temps de protection, comme si les emails pouvaient t'exploser à la figure, quoi.
Déjà.
C'est quoi maintenant, en tous les cas, les mails, ça fait jurisprudence, quoi. Avant, ça n'était pas du tout pris en compte si t'attaquais ou quoi. En justice, maintenant ça l'est parce que c'est daté, ça a été prouvé que ça pouvait pas être falsifié. Et donc, ouais, c'est important de faire super gaffe là-dessus. Moi, là où je vois un réel changement en ce moment, c'est que bon, ben, il y avait plein de choses qui se faisaient dans la surveillance. Au travail, en tous les cas, par les patrons, les jaunes, que maintenant ça, ça s'automatise en fait. Donc on a beaucoup moins de chances de passer au travers du filet, quoi.
Oui, parce que donc il y a des moyens déjà mis en œuvre, comme par exemple les proxys. Donc il faut savoir que donc ils utilisent généralement des proxys en termes informatiques, et donc c'est simplement, je dirais, donc une passerelle qu'on utilise pour aller vers l'extérieur, pour faire passer tous les mails par cette première machine. Et donc ça, c'est un moyen par excellence qui est en leur possession pour découvrir dans les mails certains mots-clés ou donc les mots-clés, par exemple, dans les sujets des mails, déjà de voir ce qui se passe, voir également par après si vous avez l'autorisation d'aller sur Internet, sur quel site vous allez directement. Donc il faut déjà savoir s'il y a donc un proxy. Maintenant, en règle générale, avant même de parler donc du mail en question, avant même que vous rentriez dans la société, il faut que donc tous ces éléments-là soient déjà bien notifiés dans votre contrat de travail, ou bien donc avec l'affichage donc sur les panneaux du personnel, ou donc ce flicage entre guillemets soit déjà mentionné. Généralement aussi, ce flicage est mentionné avec un numéro de CNIL, comme on l'appelle, hein, donc la commission informatique liberté qui va gérer un peu ces relations là donc avec le mail, hein, ou donc l'internet en général. Donc il y a quand même certaines règles qui doivent respecter. Je crois que donc Salah, tu viens d'en parler déjà tout à l'heure.
Tu parlais des contrats de travail, enfin des règles dont tu parles qui sont signifiées dans le contrat de travail, mais il faut savoir que enfin pour les SS2I, même d'ailleurs, il me semble que c'est à peu près partout. Enfin, on te parle de confidentialité, en fait, c'est le fourre-tout pour laisser un gros flou artistique et pour pouvoir intercepter des mails ou te reprocher ci ou ça, quoi. Enfin, déjà, la plupart des contrats que j'ai eus, c'était toujours des clauses de confidentialité. En fait, c'est la porte ouverte à tout, quoi.
Mais donc,
au flicage généralisé.
C'est là, donc, justement, le premier moyen d'action qu'on a dans une société, n'importe laquelle dans laquelle on travaille, d'avoir donc une mention particulière avec un addendum au contrat, c'est-à-dire une extension donc des termes du contrat où ils reprennent carrément les règles auxquelles vous en tant que salarié ou nous en tant que salarié on est assujetti. Et qu'est-ce qu'ils peuvent regarder, ce qu'ils peuvent pas regarder. Ça c'est déjà donc une des premières libertés qu'on doit faire prévaloir quand on travaille dans une société. Justement passer du stade de cette confidentialité à voir exactement les règles qui doivent être utilisées donc de leur côté. Et donc là, c'est donc un peu le travail que donc on doit faire déjà en tant que syndicaliste, aussi bien que donc individu, au niveau de la CNIL. On a certains droits. Même si on n'est pas syndiqué, on peut très bien demander à la CNIL pour une société X, donc en donnant le CIRET, numéro de CIRET, vous pouvez voir quelles sont les règles qui sont d'application qui ont été déclarées par l'employeur. Ça se pourrait très bien que donc ce ne soit pas le cas. Et donc là, c'est à nous de faire le nécessaire. En tant qu'individu, en tant que salarié dans la société, de faire le nécessaire vis-à-vis de la CNIL et demander quelles sont les règles auxquelles cette société est assujettie. Donc là, on parle également du mail plus en particulier. Donc quand on échange des mails, bien faire attention à ce que vous marquez, dans quel contexte, surtout pas vous énerver, que donc ce soit pas utilisé dans tous vos dossiers prud'hommes par après ou entretien préalable. C'est clair, c'est donc une première étape qu'il faut éviter. Deuxième chose, pour l'expérience que j'en ai, c'est également pour tous les mails importants que vous avez au niveau professionnel, de toujours garder une copie sur votre disque dur, et puis par après penser à faire donc une copie sur un autre serveur à l'extérieur. Donc vous envoyez le mail sur votre adresse perso, vous avez toujours le droit de le faire, mais donc de bien garder ces mails en archive. Parce que généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on veut vous reprocher quelque chose, comme par hasard les mails les plus importants qui témoigneraient en votre faveur, ont disparu suite à un problème de serveur Zimbra ou autre qui ne fonctionne comme par hasard pas au moment voulu. Donc déjà ça, important. Autre élément également, quand vous êtes en train de travailler avec une hiérarchie, de bien mettre votre chef hiérarchique toujours en copie de certains mails qui font allusion par exemple au process de la société. Jamais prendre l'initiative soi-même pour monter un N+2 ou N+3 comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle différents salariés se font descendre d'emblée. Donc on ne respectant pas donc leur chef hiérarchique au départ. Oui. Je pense que ça c'est la base même, je dirais, dans donc, tout ce qui concerne les mails. Peut-être Salah ou Karine, vous avez d'autres éléments à mentionner
après,
à ce sujet-là.
Il y a aussi le cas où ça peut arriver, et c'est vrai que ça arrive, en tous les cas pour ma part, de recevoir des mails perso au travail, sur sa boîte professionnelle. Pour ça, juste prévenir ses contacts qu'il faut mettre au moins personnel et confidentiel dans l'objet. Et que normalement, la personne a quoi qui voudrait s'en servir ne peut pas. Après, c'est vrai que le mieux c'est pas d'utiliser son ordinateur parce que c'est pas votre ordinateur, c'est celui de votre patron à des fins personnelles. Mais bon, on est encore des êtres humains.
Dans la mienne, c'est bien.
Oui, non, mais moi aussi, je travaille dessus tout le temps. Pour moi, c'est le mien. Non, mais en fait, dans les faits, au niveau législatif, c'est celui du patron.
Est-ce que vous voulez que je fasse peut-être une petite synthèse avec tous les différents arrêts qu'il y a eu?
Oui,
je vais essayer d'être assez rapide. Alors, il faut savoir que l'outil informatique est considéré comme un outil de travail et c'est à ce titre que les patrons demandent un droit de regard, voire un contrôle des courriels reçus ou émis sur le lieu de travail. Alors, comme on l'a dit, est-ce que c'est légal? La réponse est non. À moins que le patron ait formellement interdit toute émission ou réception d'email, la jurisprudence estime que le salarié peut utiliser le courrier électronique pour un usage personnel ou même à des fins syndicales. Mmh. Donc, on a bien le droit d'utiliser son courrier électronique pour un usage personnel ou à des fins syndicales. Alors, il y a trois points qui sont importants à retenir. Ils sont valables aussi bien pour les salariés que les fonctionnaires, puisque la jurisprudence de la fonction publique s'est alignée à celle de l'entreprise. Confère l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2010. Donc c'est tout récent. Ça, c'est important pour nos copains et copines fonctionnaires. Donc maintenant, ils sont calés sur le privé au niveau de, du droit à l'usage du courrier électronique. Alors, tout d'abord, il y a l'usage privé de votre adresse professionnelle. Il faut savoir qu'elle est autorisée sous condition. Alors, dans une décision de juillet 2003, la Cour d'appel de Bordeaux a reconnu aux emails leur caractère personnel, même s'ils étaient émis depuis l'adresse générique de l'entreprise et non une adresse individuelle. C'est-à-dire que même depuis l'adresse salar@enterprise, j'ai le droit d'envoyer quand même depuis cette adresse mail. Enfin, il faut savoir que c'est quand même personnel. Enfin, j'ai le droit de.
Bah, il y a tout le monde en même temps. C'est bien ça là, c'est pas.
Oui, mais je veux dire, c'est censé être. C'est une boîte générique, donc c'est censé quand même. Enfin, c'est quand même censé être dans un cadre professionnel. C'est pas la petite boîte Hotmail, quoi, c'est ce que je veux dire. Alors, pour éviter toute confusion, on recommande aux salariés d'inclure le mot personnel ou privé dans l'objet des mails envoyés, ainsi que dans le nom des fichiers joints à chaque fois que l'envoi n'est pas à caractère professionnel. Comme ça, ça vous évite, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Yann, ça évite qu'on nous fasse chier là-dessus, quoi. Clairement, mais privé ou.
Ça, c'est la première partie. Par contre, il vaut mieux également mettre dans le corps du mail, si par erreur ce mail, par exemple, a été envoyé par erreur sur une boîte de mail de quelqu'un d'autre qui n'est pas le destinataire, de le détruire. Donc, c'est un texte standard que tous les avocats et surtout les anglo-saxons, je dirais, utilisent. Ça vaut le coup également de le mettre en complément. Donc, pas uniquement dans le personnel et confidentiel, dans le sujet, mais également dans le corps du mail. Donc c'est un texte bien précis, quitte à la rigueur, je pourrais vous le transférer et en faire part à la radio pour que vous mettiez, parce que donc ça peut être utilisé à des fins personnelles également. Hein, quand vous envoyez un mail, par erreur, ça arrive sur la boîte de mail d'un concurrent ou autre, on ne sait jamais. Si c'est destiné donc à une personne non conforme au mail, au moins que donc ce mail puisse être détruit et que vous en soyez averti et que ça puisse pas être utilisé en cours de justice. C'est surtout à ça qu'il faut prendre.
C'est clair. Et à noter aussi que les correspondants, ils doivent faire de même. Oui. Qu'une personne sortante veut vous envoyer un mail, il faut qu'elle précise privé ou,
oui, tout à fait.
Ou personnel. Alors, il faut savoir quand même que l'adresse professionnelle, à des fins personnelles, il y a des limites. Alors, évidemment, malheureusement, plutôt, j'ai envie de dire, on ne peut pas. Enfin, sont proscrits les messages graveleux ou contraires à la loi qui, rendus publics, peuvent porter atteinte à l'image de marque de l'entreprise. Alors, je vais faire un tout petit. Tout petit historique de. Excuse-moi.
Justement, c'est là où c'est très important. Grave-le, tu as dit, et surtout porté au public.
Ouais.
Et donc là, on va pouvoir faire le lien tout à l'heure avec Facebook.
D'accord.
Pour mieux comprendre ce qui s'est passé donc au niveau des mails. Parce que la jurisprudence de base n'a pas changé. Avec le Facebook, donc le procès qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, donc dans deux cas de figure, effectivement, on a l'aspect public qui intervient.
Et les licenciements ont été maintenus. Faut
tout à fait, parce que donc là, c'est donc une interface publique. Donc si le mail est utilisé, en l'occurrence, pour envoyer, par exemple, à des journalistes à partir de ce mail professionnel, donc là, vous pouvez être mis en cause.
Maintenant, ça pose la grande question de est-ce que Facebook est public ?
Il y a une partie publique et il y a une partie qui n'est pas. Ça dépend des paramétrages.
Parce que si, ouais, voilà. Enfin, si donc, c'est une page personnelle. Pour moi, ça reste du privé.
Voilà, normalement, c'est du privé, mais il faut faire attention avec l'aspect public.
Il y a, comme tu dis, normalement, il y a aussi les faits. Quoi, on sait tous qu'on est fliqué par nos Facebook, quoi. Donc, juste là, deux secondes, jamais faire un Facebook avec son vrai nom.
Exactement.
Déjà, pour commencer.
Quoi, ça me paraît important. Si c'est trop tard, au moins, pas ajouter des groupes. Qui pourrait porter atteinte à votre image, pas ajouter vos collègues en amis. Ouais, vous serez le seul méchant de la boîte, mais faut pas le faire.
Et même sans ça, même si tu rajoutes pas tes collègues en amis, pour les pour les mecs, tu recevras souvent une invitation d'une super belle nana, ou l'inverse pour les filles d'un super beau mec, et tu vas dire ah, tiens, je vais l'accepter. Et ben non, en fait, ça peut être.
Non, les filles elles font pas ça.
Ah, ok. alors, je vais faire un rapide historique, justement, là, sur toutes ces histoires. Alors, en avril 2003, il y a eu un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a condamné un salarié pour atteinte portée à l'image de marque et à la réputation de son entreprise. Il avait associé le nom de cette dernière à des activités à caractère pornographique ou échangiste par l'utilisation de son adresse électronique. Enfin, il faut savoir que ça, en fait, ça a été infirmé par la Cour de cassation, il me semble, très récemment. Enfin, ça, je ne sais plus pourquoi, malheureusement. C'est con, je l'ai vu ce matin, en plus.
Merci, Salah.
Alors, sinon, il y a le 2 juin 2004, il y a eu un arrêt de la Cour de cassation qui a considéré que le fait d'utiliser la messagerie électronique de son entreprise pour émettre dans des conditions permettant d'identifier l'employeur un courriel contenant des propos contraires à la loi, antisémites en l'occurrence, et constitutif d'une faute grave. Bon, là, de toute façon, ça tombe sous le... Enfin, toutes les manières, le racisme, on tombe sous le coup de la loi, donc... Alors, faut évidemment aussi ne pas abuser des emails perso au boulot. De toute façon, ça, on pourra vous faire pression là-dessus. Et sinon, en janvier 2009, il y a le Conseil des Prud'hommes d'Angers qui a débouté une salariée contestant son licenciement pour avoir envoyé 156 emails personnels en l'espace de 2 mois. Ce qui peut lui être valablement reproché, c'est la fréquence et l'importance en volume de telles communications. Le licenciement pour motif à caractère disciplinaire est pleinement justifié. C'est pour ça, justement, que je vais, qu'on en vient à la deuxième partie. Le courrier identifié comme personnel, il faut savoir qu'il est privé. Alors c'est là que c'est important en fait, c'est que tu vois tout à l'heure on parlait de la confidentialité, que ça doit être marqué dans le contrat de travail, tes droits et tes devoirs entre guillemets au niveau des mails. Il faut savoir qu'il y ait ou non une charte informatique dans l'entreprise qui indique précisément aux salariés ce qu'ils ont droit de faire et ce qui leur est interdit. La jurisprudence estime que le secret des correspondances est primordial. C'est-à-dire que même si c'est pas notifié dans ton contrat de travail par une charte informatique, le mail privé est privé en fait. Donc, la correspondance privée reste privée quoi.
Donc cette charte informatique, c'est là où il y a le lien à faire avec la déclaration CNIL.
Exactement.
Donc ça c'est hyper important parce que donc c'est pas suffisant que donc une société mette en place par elle-même une charte qu'elle va dicter à tort et à travers tous les process. Non, il faut que donc cette charte informatique soit enregistrée auprès de la CNIL. Donc ça c'est un moyen par excellence en tant que salarié de toute boîte de pouvoir remonter à la source de cette charte et de voir ce qui est toléré et ce qui n'est pas admis.
D'ailleurs, l'idéal, ça serait carrément de faire pression sur les patrons pour que cette jurisprudence, qui estime que le secret des correspondances est primordial, qu'elle soit mise systématiquement dans cette charte.
Tout à fait.
Parce que les patrons utilisent souvent cet argument, parce que malheureusement, les salariés ne connaissent pas encore, ne sont pas formés ou n'ont pas les connaissances sur le droit en informatique. Et il faudrait carrément que cette jurisprudence soit inscrite dans la charte informatique, enfin que tout le monde soit au courant qu'il existe cette jurisprudence et que le secret des correspondances reste primordial. Alors sinon, il y a eu le 2 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a condamné des cadres d'une école des Gêneurs qui avaient consulté la messagerie d'un étudiant à son insu. Le jugement a été confirmé par l'arrêt du 17 décembre 2001 de la Cour d'appel de Paris. On a le 2 octobre 2001, un arrêt de la Cour de cassation qui a reconnu que le salarié a droit même au temps et lieu de travail au respect de l'intimité de sa vie privée, que celle-ci implique en particulier le secret des correspondances, que l'employeur ne peut dès lors, sans violation de ses libertés fondamentales, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l'ordinateur. Excusez-moi si c'est long. Tu veux rebondir là-dessus?
Donc même si on t'a stipulé que ton ordinateur c'était que pour le professionnel, au final, tu peux quand même envoyer des mails perso.
Voilà. Et en recevoir. L'intimité de sa vie privée, c'est une liberté fondamentale.
Ouais, d'accord.
Et donc, évidemment, le patron n'a pas le droit de...
Dans les faits, oui, c'est différent. C'est différent, mais donc, pour ajouter quelque chose, là où également pour les mails envoyés et mails reçus à titre personnel, si vous les conservez, vous les mettez également dans un répertoire où c'est bien stipulé personnel et confidentiel. Déjà ça aussi. Eh bien, regardez, ça vous permettra de regarder à quelle date le mail a éventuellement été réouvert, et ainsi de suite. Donc, il faut faire aussi soi-même un petit pointage.
Non, c'est clair.
Aussi bien pour certains dossiers personnels que vous gardez sur votre ordinateur, qui n'ont rien à voir avec la partie, je dirais, mail. Hein, donc, c'est pareil. Mettez-les toujours dans un répertoire personnel et confidentiel, et vous notez par vous-même les dates auxquelles vous avez ouvert pour la dernière fois le fichier, et sauvegarder. Comme ça, vous avez déjà une première possibilité de voir si vous avez espionné votre ordinateur.
Oui, ou vous les checkez tous comme non lus.
Voilà, tout à fait.
Ou un truc comme ça.
Donc, les éléments de base. Hein. Maintenant, dans la pratique, effectivement, Karine, tu as mentionné, c'est complètement différent. Eh ben, je pense que donc là, on voit très bien, avec certains dossiers qui remontent de plus en plus. C'est par exemple chez Renault. Hein, donc on parle de Renault, donc le flicage qu'il y a eu, malgré que donc on voit par exemple dans les centres d'appel qu'il y a donc une charte CNIL qui est mise en place, donc une certaine charte informatique pour respect donc de la vie privée. Donc dans la pratique c'est complètement différent et on va carrément regarder ce qui se passe donc avec d'autres outils de flicage, de surveillance par les biais des proxys, comme je disais, c'est le meilleur moyen pour vérifier ce qui est donc les salariés s'écrivent entre eux-mêmes et il faut pas oublier les FAI, n'importe lequel, aujourd'hui, aussi bien Orange, SFR, Free ou autre, ben, ils ont le pouvoir, puisqu'ils sont FAI, ils ont le pouvoir par excellence de vérifier tout le réseau. C'est pas uniquement donc les boîtes de leurs salariés, mais c'est d'aller voir même les boîtes privées. Donc si vous avez une adresse @sfr.fr ou @free.fr, n'oubliez jamais que donc c'est FAI, malgré qu'ils vous disent non, on regarde pas. C'est un excellent moyen de regarder plus loin que ce qui se passe dans les sociétés.
Bah pour un truc tout con, je sais pas si tu te rappelles l'année dernière ou il y a deux ans, c'était quelqu'un qui avait envoyé un texto. C'est une blague, quoi. Je vais poser une bombe ou une connerie comme ça. C'était une employée ou un employé de Bouygues qui l'avait directement balancé aux flics.
Tout à fait. Et donc là, même dans mon cas de figure, par exemple, on va vous remonter des SMS soi-disant qui ont été vérifiés donc par la personne, donnés par la personne, avec huissier, présence de huissier, et ainsi de suite. C'est le moyen de justifier la prise de cette information, mais qui en définitive a été faite sans l'autorisation de différentes personnes.
Bien sûr.
On voit très bien que donc les corbeaux, comme c'était le cas chez Renault, ben, ces dossiers-là sont créés par une officine de sécurité, on peut le dire comme ça. Donc c'est donc des gens qui sont spécialisés pour le montage de dossiers donc au niveau sécuritaire des sociétés pour faire tomber certains salariés, mais aussi bien donc avoir une connaissance de l'information qui est importante au niveau économique de ces sociétés. Encore là, l'exemple de Renault, les banques, pensons au FAI, quand ils ont des nouveaux produits à mettre en place sur le marché, bien donc ils font appel à ces boîtes extérieures qui vont par après s'infiltrer avec une nomination de quelqu'un au niveau sécuritaire dans toute la société pour voir ce qui se passe réellement derrière les coulisses.
C'est quand même marrant que maintenant ton outil de travail est devenu ton pire ennemi et que t'as même peur de...
Oui, donc c'est le pire ennemi, comme par exemple les fameux copains, parce que donc eux-mêmes vont se faire enrôler dans ce système. Et là, je reviens sur le livre de Mathieu Régousse, donc les marchands de peur, ben, c'est ça ce qui s'est produit. Donc on est complètement mis dans l'individualisme, donc on peut plus faire confiance à son collègue ou autre, on n'a plus le phénomène des usines, donc on est complètement isolé et on se retrouve avec très peu de moyens pour se protéger quelque part.
C'est ce qu'on a tous connu le matin. Je me rappelle la dernière boîte où j'étais, le matin je défendais des salariés, des collègues, hein, des presque copains. Quoi. L'après-midi, me balançais au patron. Quoi.
Tout à fait, parce que donc il y a l'espoir, et donc là c'est la partie syndicale. Donc on arrive à un stade où les gens se disent, donc les salariés en premier lieu se disent, pour arriver à nos fins, je crois plus dans la solidarité, donc il vaut mieux aller dans le sens des patrons.
Bien sûr.
Et c'est ce qu'ils utilisent également par le biais de tout ce qui est l'aspect sécuritaire.
Là, c'est le grand tournant de façon du thatcherisme et du macartisme, et du reaganisme de la fin des 70, fin des années 70-80, on a brisé l'unité syndicale, enfin l'unité ouvrière.
Exactement.
Mais en dehors des personnes qui peuvent faire de la délation, quoi, en gros c'est ça. Mm-hmm. De toute manière, nos mails transitent sur des serveurs mail, sachant que ceux de Microsoft et d'IBM, ils permettent d'enregistrer tout ce qui passe.
Tout à fait.
Donc de toute manière, quand on n'a même plus besoin d'attendre maintenant, quoi, pour lesquels le patron n'a plus besoin d'attendre que tous ses salariés soient partis pour allumer tous les ordi et voir ce qui s'y passe. Quoi, il peut avoir directement des mails qui lui sont envoyés.
Exactement, avec des mots-clés.
Parce que c'est l'admin réseau est souvent
J'ai une boîte là, qui clairement, c'est tout ce que tu décris, mais en pire. Quoi.
Parce que juste, tu me laisses finir, Karine. D'ailleurs, je voulais savoir si, quand je l'ai fini, si ça te dit de refaire un récap des bonnes habitudes à prendre au niveau des mails pour nos auditeurs.
Donc, pour les auditeurs, donc les mails, toujours se méfier quand vous écrivez des textes, toujours partir du principe, est-ce que ce mail-là va être utilisé à mon encontre? Toujours penser à la place de la partie adverse. Qui n'est pas encore présente, parce que donc le patron est toujours là, présent, et prépare des dossiers. Donc dans votre fichier RH, vous allez retrouver des éléments de mail après des mois. Donc premier point important, toujours faire attention à ce que vous écrivez, que ce soit le plus neutre possible, et toujours avec une copie, donc un chef hiérarchique. Vous pouvez vous mettre donc une copie de ce mail pour les mails importants, votre propre mail personnel. Marquer dans le sujet du mail personnel et confidentiel, avoir ce texte complémentaire dans le corps du mail, si vous le stockez, ces mails, donc de les garder sur un répertoire bien particulier, personnel et confidentiel. Je dirais ça, c'est la base même concernant les mails.
D'accord. Donc juste pour finir sur les mails, alors, l'usage de mails peut faire l'objet d'une surveillance technique. Mais là, c'est là que c'est important de préciser qu'est-ce que la boîte a le droit de surveiller. Alors la jurisprudence n'interdit que le contrôle des contenus à caractère privé. La surveillance de votre adresse professionnelle peut porter légalement sur les caractéristiques techniques des courriers électroniques. Donc, dans un rapport datant de mars 2001, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, donc la CNIL, résume parfaitement la situation. L'interdiction de principe faite aux salariés d'utiliser la messagerie électronique à des fins non professionnelles paraît tout à la fois irréaliste et disproportionnée. La sécurité de certaines entreprises particulières peut sans doute justifier que soit opéré un contrôle a posteriori de l'usage des messageries, pardon. Mais un tel contrôle doit pouvoir être effectué à partir d'indications générales de fréquence, de volume, de la taille des messages, du format des pièces jointes, sans qu'il y ait lieu d'exercer un contrôle sur le contenu des messages échangés. Donc il y a quoi à retenir là-dedans, c'est que même sur ce qui est d'usage professionnel, votre patron n'a pas le droit de lire le contenu d'un mail. La seule chose qu'il peut contrôler, c'est donc la fréquence, le volume et la taille des messages. Et le format des pièces jointes aussi, évidemment, parce que là, pour le coup, pour le format des pièces jointes, on peut comprendre de ne pas s'envoyer d'exécutable par mail ou carrément de sortir, on va dire. Enfin, on peut comprendre. Je suis pour le logiciel libre, donc non. Enfin, mais à la rigueur, dans la parano du patron, on peut comprendre sur l'espionnage industriel que bon, tu crées un logiciel, si elle voit que l'extension, enfin, qu'il y a une pièce jointe où il y a l'extension, on peut le comprendre, quoi.
Mais c'est la voie d'attaque principale. Savoir si sur leur ordinateur tu vas pas mettre un virus en t'échangeant des mots avec tes petits copains. C'est ça. Bon, après, dans les faits, je pense qu'ils s'en foutent. Ouais. Le but, c'est de te fliquer, savoir ce que tu fais, surtout si tu fais du syndicalisme.
De toute façon, c'est le grand truc maintenant des entreprises de te la jouer confidentialité pour éviter l'espionnage industriel, alors qu'en fait, c'est juste pour fliquer les salariés et le syndicalisme.
Ouais, ou l'atteinte donc à l'image de marque de la société, par exemple. Hein, donc, sachant que donc même en tant que syndicaliste, donc là, je peux vous garantir, même en ayant eu un entretien avec un directeur financier sous quatre yeux, c'était la première personne donc de la société en question qui m'a dit clairement, ancien syndicaliste, donc il faut savoir que tu es fliqué de A à Z.
Bien sûr.
C'était un danger.
Et en plus, syndicaliste rouge et noir, là, t'abuses quand même.
Donc là, c'était le pire des choses.
Quand tu cherches la merde en même temps, quand même.
Ça, on le voit bien quand on mentionne que c'est du rouge et noir. Là c'est tout le monde devient rouge et noir, quoi. Ouais. Ou explose. Ouais. Bien, donc je pense que donc on a fait déjà un premier tour sur l'importance de ce qu'on écrit dans les mails. Donc maintenant on va peut-être aborder donc la pratique. Je parle en tant que personne qui assistait dans différents dossiers des salariés. Je peux parler également de mon propre dossier. Donc ce qui est étonnant aujourd'hui, puisque donc on parlait tout à l'heure de cette individualisation, le seul moyen technique pour reprocher quelque chose à quelqu'un, c'est de regarder ce qui se passe par le biais des mails. Bien, les mails sont toujours sortis le moment venu, c'est-à-dire l'entretien préalable de licenciement vous présente ces mails, et donc là, il faut pouvoir se justifier. Donc là, c'est hyper important d'avoir ces éléments. En l'occurrence, donc les mails, par exemple, personnels et confidentiels, même si on les tire par après en tant que direction, il y a toujours un moyen de faire valoir cet élément-là, donc devant un juge prud'homal. Aussi bien donc le moyen qu'ils ont utilisé pour s'approprier ces mails. Donc ça, c'est hyper important. En l'occurrence, je peux parler aussi d'une expérience à l'étranger, donc Maroc, donc où les salariés étaient systématiquement fliqués entre eux, parce qu'ils s'envoyaient de tout type de mails, même à la rigueur un peu sexiste entre guillemets, et donc même ça peut être utilisé, même ici en France.
Tu parles dans des centres d'appel au Maroc ?
Ouais, tout à fait.
De toute façon, c'est exactement les mêmes techniques.
C'est les mêmes techniques. Et pareil, donc pour joindre les centres d'appel au Maroc, donc puisque donc il y a un échange qui se fait entre les téléconseillers marocains, par exemple, ou d'autres centres d'appel dans le Maghreb en général, pour éviter d'avoir des collusions entre salariés, ben donc ils évitent d'avoir donc une approche directe du mail qui va vers ce salarié. Il est bien filtré, on voit très bien que donc ce mail arrive avec un retard parfois de 2 heures, 3 heures sur leur boîte de mail, donc on sait ce qui se passe exactement. Donc faites très attention.
Donc c'est le temps
à tout
du vol,
ça.
Presque c'est même le temps de vol.
Ouais, exactement.
Entre Paris et Casablanca finalement.
Ouais, tout à fait.
Excuse-moi, Yann, si si tu me permets, est-ce que tu peux nous faire une très rapide présentation de comment ça marche les centres d'appel entre la France et les pays maghrébins? Il y a eu des gros soucis là pendant la révolution tunisienne, par exemple. T'as des, je crois que c'est la boîte, elle s'appelle Centre Appel, hein,
oui.
Il me semble.
Et Total Call, donc au Maroc, oui.
Voilà. Et donc en fait, 10% des appels pour les plus grands, pour les grands groupes, genre SFR ou Bouygues, en fait, 10% des appels passaient par là-bas, quoi. Et pendant la révolution, en fait, ils ont tous été mis au chômage. Et ce sont les Marocains et les Français donc qui ont récupéré la surcharge sans être payés plus et tout ça. Et, d'ailleurs,
exactement. Ouais, mais donc
il y a des syndicats qui s'étaient plaints là-dessus. Et en fait, enfin, concrètement, comment ça fonctionne justement parce que tu viens d'en parler avec le Maroc, mais niveau... comment vous échangez, comment vous travaillez, parce que
Pour
voir si c'est possible qu'il y ait une solidarité internationale. Enfin,
il y a une possibilité, certes, mais donc il faut l'instaurer par un autre biais, donc trouver d'autres alternatives que le mail classique professionnel.
D'accord.
Déjà, ça c'est hyper important, mais donc d'avoir donc des contacts de longue date hein, pour pouvoir voir si la personne en face de vous est fiable ou pas.
D'accord.
Donc par après, la constitution de réseau, c'est le système classique, je dirais de formation de cellules. Donc dans mon cas, c'était un peu ça. D'avoir des constructions de cellules plutôt que d'avoir donc un gros groupe donc avec des gens qui étaient connus sur toute la mailing list.
Mmh.
Déjà ça c'est hyper important.
Mmh.
Système de cryptage également parce qu'il faut pas oublier que donc les centres d'appel qui sont au Maroc en à Tunis donc ou en Égypte, Libye ainsi de suite hein, donc bon ces pays-là ou Algérie ils vérifient également les mails que donc leurs propres téléconseillers reçoivent hein, par leur système de surveillance au niveau national.
Mmh.
Donc il y a un rapprochement très très net donc du centre d'appel vers un système de sécurité qui est au niveau national. C'est clair. Donc pourquoi? Parce qu'ils veulent savoir exactement ce qui se passe avec leurs propres salariés sur place, mais savoir également comme concitoyens marocains, algériens, qu'est-ce qu'ils pensent réellement? Parce que donc là, généralement, comme c'est des personnes qui sont assez bien informées par le biais d'Internet, ils ont envie de bouger. Et donc c'est ce qui s'est passé.
Surtout dans ces dictatures-là, on fait souvent très vite le rapprochement entre t'aimes pas ton patron, donc t'aimes pas l'État. Donc
c'est, oui, exactement.
Généralement, tu te.
Parce que le patron est très proche.
Ouais.
Le patron est très proche. D'ailleurs, on le voit très bien avec la constitution de syndicats patronaux au niveau du Maghreb, où c'est carrément donc 4-5 sociétés qui représentent dans ce même syndicat et qui instaurent des règles sécuritaires donc dans les pays maghrébins.
Mmh.
Donc le système sécuritaire qu'on a ici, je dirais donc l'idée de base qui est issue depuis les années, je dirais 80, bah donc il a continué et donc on l'a multiplié encore de plus en plus dans les pays maghrébins. Donc au lieu d'avoir, c'est impossible d'avoir donc un flic derrière chacun, donc on va essayer de mettre en place des systèmes déjà donc automatisés pour vérifier à tout le monde ce que vous êtes en train de dire. Donc au niveau du mail, au niveau donc des différents groupes sociaux dont on a parlé tout à l'heure.
C'est un mix entre Skynet et Big Brother que tu nous décris là.
Oui, tout à fait, mais c'est ça.
C'est la réalité.
Donc
c'est
on aura bientôt les Terminators qui viendront nous frapper.
Et donc ils vont déléguer les fonctionnalités de sécurité. Donc le maximum dans les mains des superviseurs et aussi bien les salariés, en leur faisant miroiter donc un certain avancement sans qu'il y ait donc un avancement salarial ou donc de mais uniquement déjà donc au niveau du poste, mais donc de faire valoriser la personne en disant bah donc t'as bien dénigré ou délaté donc une certaine personne.
Ça me fait vraiment penser à quand je bossais en centre d'appel quand j'étais étudiant.
Tout à fait.
Où tu t'en rendais compte que la chef d'équipe finalement était payée que 50 centimes d'euros, ouais, de plus que toi de l'heure, tu vois.
Oui.
C'est-à-dire qu'en passe, en fait, elle a passé 2 ans ou 3 ans à être la plus servile et la plus vile possible, et à dénoncer tous ses petits copains pour 50 centimes d'euros en
exactement
plus, quoi. Pour enfin.
Exactement, c'est ça donc sur lequel il se base. Hein. C'est donc déléguer la fonctionnalité sécuritaire à des personnes qui ne font rien d'autre.
Bien sûr.
Faut savoir que donc le superviseur ou les 3 ou 4 personnes qui vous écoutent sur certains paramètres de qualité en même temps. Hein. Donc c'est pas donc une écoute donc pour chaque personne. Non, ils vont écouter la même personne sur différents critères de qualité. Avec le superviseur, donc en plus, donc ça devient affolant. Donc la même personne peut avoir 2-3 évaluations dans le courant de la même semaine sur le même critère.
On a vraiment la preuve que le jaune ne paye pas, quoi.
Ouais. Tout à fait.
Mais même le climat de stress que ça t'engendre.
Ah ben donc là, généralement, l'état de stress ne se vérifie pas pendant les 3, 4, 6 premiers mois. Parce qu'on se dit, bon, je m'engage, je suis jeune, je suis un étudiant.
Oui, c'est ou ça, ils misent aussi beaucoup sur la jeunesse.
Et surtout le turnover.
Ou la précarité.
C'est pour ça qu'il y a un gros problème syndical justement dans les centres d'appel. Enfin, tu me confirmeras.
C'est ça.
C'est que je me rappelle, je n'étais pas encore au syndicat de l'informatique. Mais on m'expliquait qu'au début des années 2000, le syndicat de l'informatique avait grossi principalement grâce aux camarades qui étaient dans les centres d'appel. Mmh. Mais en fait, le turnover est tellement important que finalement, les camarades ne pouvaient pas rester au syndicat. Parce que c'est souvent un boulot de passage. Quoi.
De passage. Mais donc, bon, on a quand même certaines sociétés qui maintiennent leurs salariés pendant 4-6 ans. Et puis après, il y a le fameux phénomène du burn-out. Mmh. Burn-out, c'est-à-dire c'est simplement une chandelle qui est trop vite brûlée, qui est morte. Mmh. C'est un citron qu'on a pressé et puis donc il ne peut plus.
Ce qu'on retrouve dans les boîtes d'informatique aussi.
Exactement.
Tout, en fait, de toutes les manières, tout ce qui relève...
Des
nouvelles technologies, quoi, génétiques, comme ils s'appellent.
Ça peut se retrouver partout, du moment où tu compresses les gens au possible. Le burn-out, c'est pas spécifique aux centres d'appel.
Non, je dis pas ça, mais enfin, il y a quand même.
C'est venu.
Mais c'est vrai que les centres d'appel, c'est marrant parce que je crois que comme moi aussi, j'en ai fait quand j'étais jeune. J'ai tenu 3 semaines.
Je suis
moins doué que ceux qui tiennent 6 mois.
Mais il y a 2 catégories, en définitive, qui rentrent en ligne de compte pour être employés dans les centres d'appel. Donc, la grosse majorité, c'est des personnes qui sont relativement jeunes, premier emploi ou deuxième emploi, d'accord? Qui ont 25 ans, 35 ans. Et par après, vous avez donc une catégorie autre, encore, donc des gens qui sont un peu plus âgés, grosso modo la quarantaine, qui ont connu des difficultés dans leur vie professionnelle, qui sont hyper qualifiés. Et donc le but en fait du patronat, par ce biais de centre d'appel, c'est de maintenir le salaire le plus bas possible, d'avoir l'utilisation de ce vivier de connaissances, parce qu'il y a des gens qui se font engager ne mentionnant pas toutes ces connaissances qu'ils ont au départ, parce qu'autrement ils seraient jamais engagés. Donc vous avez un vivier qui est énorme, une potentialité de personnel énorme, et tout en sachant que donc c'est très très labile. Donc on a des phénomènes de stress qui sont importants, donc il y a des gens qui tombent assez rapidement en dépression. Par après, il y a aussi des tentatives de suicide ou des mises à l'écart, carrément placardisation, et ainsi de suite. Donc pourquoi? Parce que c'est l'open space, c'est donc l'individualisation, c'est la délation, le dénigrement, carrément, donc en tant que superviseur de certaines valeurs. Et on le voit très bien, parce que si on va plus loin, nous-mêmes aussi, en tant que salariés, on est en mesure de vérifier certains mails, donc que nos propres superviseurs nous envoient. Et parfois, ils donc font eux-mêmes des erreurs, des mails où il y a d'autres contenus dedans. Là, c'est hyper important.
J'ai envie de nous dire quelque chose là-dessus.
Oui.
Désolé de t'avoir fait faire cette parenthèse.
Si on approfondit les choses, on peut très bien, à un certain moment, obtenir les informations, comment ils nous considèrent et qui il faut licencier. Ça va aussi loin que ça. Mais donc, il faut avoir une certaine expérience pour obtenir ces informations. Et on voit très bien qui est sur la liste. Donc, monsieur un tel, à telle date, et ainsi de suite, pour éviter les plans socio-économiques. Donc, il faut rester en dessous de la barre des 11 personnes par mois, ou des 10 personnes plutôt. Et donc, comme ça, on n'a pas de plan social-économique à instaurer. Donc, c'est vraiment bien calculé. Donc, dans le contexte maintenant de tout ce qui est sécuritaire, donc il faut savoir que donc c'est du flicage de A à Z. Ouais, mais au départ, c'est pas présenté comme ça. Au contraire, on va dire, on est la société toute jeune, le gros concurrent de France Télécom, qui sont uniquement des fonctionnaires qui ne foutent à rien. Nous, on connaît pas donc les suicides, et donc c'est mettre donc dans un petit coin où il faut pas trop regarder tous les autres problèmes qui sont présents, parce que si on vérifie plus loin, on voit les mêmes problèmes que donc dans d'autres sociétés, ainsi de suite. Par contre, ce qu'on peut dire que donc aujourd'hui, puisque c'est une population qui est quand même importante au niveau des centres d'appel en France, aussi bien à l'étranger, pour je parle des pays maghrébins, c'est un premier pôle d'emploi, mais c'est des ouvriers spécialisés dedans le temps.
Ouais.
Et donc là, la grosse différence, c'est que donc il y a aucune solidarité entre salariés dans les centres d'appel. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent très bien travailler de 8h du matin jusqu'à 15h30 l'après-midi sans devoir parler à un collègue.
Ils n'ont pas le droit ?
Ils n'ont pas le droit ou ne peuvent pas.
Ouais.
Donc ils sont toujours avec un casque.
C'est la technique du flux tendu, quoi.
Enfin, c'est du flux tendu, et donc effectivement, donc on a des moyennes généralement de l'ordre de, on peut dire, entre 4-7 minutes par appel, parce qu'autrement on est déjà mal évalué, donc il n'y a aucun critère de qualité derrière qui puisse être mis en contrepartie. On va vous dire oui, on a des critères de qualité, mais donc on voit très bien que donc la marge de manœuvre, c'est quoi ? C'est la moyenne de la durée de l'appel, parce que c'est ça qui rapporte de l'argent.
Oui, il faut passer beaucoup.
Oui, tout à fait. Donc il faut pas oublier que donc un téléconseiller sur une journée entière de 7h30 presque 8h de travail, ben ce sera donc 80 appels.
Oui. Quoi, faut rappeler que ce flicage, il a pour but l'optimisation de la productivité.
Tout à fait,
dans tous les cas.
Dans tous les cas, c'est ça. Parce que donc c'est ça qui rapporte de l'argent, même si donc à un certain moment, donc avec la loi Châtel, ça a quand même changé, avec le temps d'attente qui doit être gratuit, mais donc il y avait plusieurs centres d'appel de plusieurs FAI par exemple, fournisseurs d'accès internet, qui faisaient du volume simplement pour avoir des appels.
Ouais.
Et donc même à la rigueur créaient parfois des problèmes sur certains serveurs pour qu'il y ait plus d'appels en entrant et qui faisaient tomber la machine à sous.
Surtout, il y a quelque chose que, enfin, on va en reparler tout à l'heure sur les outils, sur des outils précis de flicage, quoi. Mais rien que de penser que tu peux être écouté à n'importe quel moment et que t'es flic, enfin, que t'as ça en suspens, c'est insupportable, insoutenable, quoi.
Ouais. Donc là, il faut savoir que, donc, la CNIL vous permet, et c'est là aussi que, donc, les organisations syndicales ou, donc, DP, même si on parle pas d'organisation syndicale, mais n'importe quel DP, n'importe quel salarié, peut faire, donc, un questionnement vis-à-vis de la CNIL et leur demander l'application du concept de base, c'est quoi, d'être averti. Mmh. Il y a beaucoup de sociétés qui vont vous dire, ben, vous avez été averti avec votre avenant sur votre contrat. On vous l'a signalé au départ que vous étiez écouté. Mais il faut savoir que donc la CNIL impose quand même donc certaines règles, que donc normalement ça doit être fait par un moyen auditif ou visuel, que donc l'appel en question est enregistré.
Et ça. Mais dans les faits?
Dans les faits, c'est pas fait, et puis donc ils vont se rabattre en tant que patronat uniquement sur ce qui s'est rajouté au contrat, donc avec l'avenant, que donc c'était mentionné. Mais donc dans la règle, ce qui doit être appliqué, c'est donc un moyen visuel ou auditif qui doit être lancé au moment de l'enregistrement. Après, il faut savoir que donc ces enregistrements doivent être gardés maximum 48 heures et seulement à des fins didactiques.
Oui,
pas des fins coercitives. Quoi.
Voilà. Mais donc dans la pratique, ce qui s'est passé, c'est que donc ça a utilisé déjà à des fins coercitives et d'utilisation même dans des entretiens préalables.
De toute façon, je me rappelle, j'avais eu 4 heures de formation. Enfin, de toutes les manières, on te fait bien comprendre que t'as aucun espace de liberté. Hein.
Non.
Que la moindre minute, c'est la porte. La moindre minute de retard, c'est la porte.
Exactement.
On m'avait quand même expliqué que si t'appelais, enfin, je sais pas si on t'a fait ça aussi dans ta boîte, que si t'appelais, par exemple, un veuve ou un veuf, tu ne devais pas t'excuser parce que c'est pas toi qui avais tué cette personne, tu devais même pas t'excuser. C'est-à-dire que t'appelles, tu dis bonjour, je voudrais parler à madame Tartempion. T'as le mari qui te dit madame Tartempion est morte, tu ne dois pas dire ah désolé, je m'excuse. T'avais pas le droit de t'excuser, quoi.
Ça, oui, mais t'as des formulations imposées de toute manière.
Oui, c'est vraiment le script perroquet, moi je l'appelle c'est ça. Donc tous les cas de figure sont énoncés. Tant mieux au départ pour avoir un certain un certain parapluie sur lequel on peut jouer, parce que donc quand on est immergé dans la hotline, dans les centres d'appel, il faut avoir un certain porte-manteau sur lequel on peut tabler, c'est sûr, mais c'est que par après il faut avoir une certaine liberté dans la formulation. Et je veux dire que donc dans les différents centres d'appel que j'ai côtoyés ou d'autres personnes que j'ai pu côtoyer, c'est pas du tout la réalité.
Enfin, c'est vraiment orwellien qu'on a l'impression de se retrouver avec le dictionnaire où t'as 500 mots autorisés et ça s'arrête là, quoi.
Tout à fait. Quand on se retrouve d'ailleurs en tant que téléconseiller de différentes sociétés, en s'amusant, on retrouve les mêmes phrases qui sont utilisées à gauche et à droite. Aussi bien donc le questionnement, est-ce que j'ai bien répondu à votre question, madame, est-ce que j'ai bien répondu à vos besoins, au revoir, je souhaite la bonne journée de la part de la société X. Donc on retrouve les mêmes formulations, et donc c'est là où on voit qu'il n'y a aucune individualisation possible
à terme. C'est des éléments de langage, comme le disent les politiques. Quoi.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc là, ça rentre dans le cadre de l'évaluation, parce que donc ce qui se passe aussi en début de mois, par exemple, vous avez des très bonnes évaluations, c'est la carotte qui fait avancer l'âne, et en fin de mois, à partir du 20-25, par exemple, donc là, on va vous donner des notes qui sont beaucoup plus faibles. Et c'est fait exprès, parce que donc au lieu d'avoir donc un système de primes qui vous fait avancer, c'est donc un système de primes maximum duquel on défalque à chaque fois en fonction de vos erreurs que vous avez commises. Donc on vous défalque la prime et vous arrivez sur un salaire de base de smicard, 2 480 €. Mais ça, c'est partout pareil.
J'espère qu'un jour, dans une autre émission, on pourra en parler, ça, du management par la terreur, parce que c'est quand même l'une des premières, la première forme de flicage. Parce que finalement, ça revient, tu te retrouves à t'auto-fliquer.
Tout à fait. Mais c'est là
où... Tu terrorises tellement que finalement...
Le système, et là je reprends peut-être à quelque chose que j'ai appris avec le livre de Mathieu Rigousse, hein, donc avec le marchand de la peur, c'est exactement ça qu'ils sont en train de faire. Donc au lieu d'avoir un système totalitaire avec une grosse équipe qui va fliquer tout le monde, ben donc on se fait, comme tu viens de le dire, ça là. Et ça, c'est hyper important de notre vision syndicaliste qu'il faut bien démontrer à nos camarades. C'est que donc on arrive au stade où on est en train de se auto-fliquer, de se auto-censurer et d'avoir une opinion unique.
J'ai une idée mise à part rejoindre nos syndicats, ce qui est très, un syndicat, ce qui est important, à mon sens. Relire la Boétie, ce serait déjà pas mal.
Tout à fait.
Sur la servitude. Et...
Tout à fait, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade de servitude vis-à-vis donc du patron de la société, le grand capital, qui devient exécrable.
Moi qui n'aime pas les flics, de savoir qu'il y a un flic en chacun de nous, ça me fait mal au cœur.
Mais c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est un peu ça. On n'a plus le droit de penser différemment. Et on arrive à un stade où on devient complètement inerte et complètement amorphe.
Ouais.
Et sinon, pour les plus récalcitrants, enfin pour ceux qui ne sont pas serviles, il y a d'autres outils. Il n'y a pas que le management, il y a aussi carrément des outils informatiques. On en parlait sur l'automatisation.
On enchaîne sur les outils.
Mmh.
Ok. Donc, peut-être, on parlait de comment ils mettent en place des outils, des logiciels pour nous fliquer. Donc, il y en a un, en fait, qui, le nom est très évocateur, hein, ça s'appelle Surveille mon salarié.
.com.
Oui, donc le site surveillemonsalarié.com, une URL super belle pour faire du référencement. donc en gros, le concept du truc, c'est surveille ton salarié et tu gagnes 2 mois de salaire par an et par employé.
T'as quand même oublié de dire qu'il était dans les favoris au MEDEF, sur les ordinateurs du MEDEF.
Ah oui, bien sûr.
Ouais. Surveillemonsalarié.com, ça c'est dans... C'est sûr que c'est dans les favoris des copains du MEDEF.
Ouais, c'est clair. Et donc, leur concept, c'est de dire l'Internet au bureau, certes, sauf que c'est quand même 86 minutes par jour que votre employé passe sur Internet. Et sur ces 86 minutes, c'est 67% de surf personnel, donc réseaux sociaux, jeux en ligne, etc.
Il attire d'où d'ailleurs ces trucs? Parce que j'ai réussi à faire sur 8 heures de travail, j'ai réussi à faire 8 heures de surf.
Oui,
comme j'ai réussi à en faire zéro, on en
pète. Comme sur une semaine, j'ai réussi à faire une semaine de surf.
Ouais.
Bon, on est peut-être pas des super bons exemples.
Il y a peut-être une autre raison pourquoi vous avez pu surfer comme ça pendant 8 heures, c'est que les serveurs professionnels étaient tombés en panne.
Non, c'est...
Ça c'était le cas à la SNCF pour mon cas, mais en fait c'est marrant, c'est j'ai réussi pendant des mois et des mois à rien foutre quand j'étais dans mon bureau tranquille avec un pote. Par contre en open space, vu que ton patron voit ce qu'il y a sur ton ordi, c'était 0 minute de surf.
Ouais.
Zéro.
Ah, moi, quand je dis que je passais une semaine sur internet, c'était en open space, alors effectivement,
ton écran était bien orienté.
Non, j'étais en plein milieu du chemin, vers les toilettes, et tout. Il faut avoir un petit réflexe, quoi. T'appuies sur fermer la fenêtre. Bien sûr, ton patron voit que tu ne fais rien, vu qu'il voit ton bureau. Mais il voit pas au moins ce que tu fais. Mais bon, donc moi j'étais pas là pour longtemps, puis je comptais pas y faire mon feu, donc je m'en fichais. Donc c'est pas un super bon conseil. Donc cette boîte, surveillemonsalarié.com, faut dire quand même qu'ils sont sur Facebook. Ça se met un peu la queue, quoi, dans le sens où on crache sur les salariés qui regardent au bureau leur compte Facebook, mais on a quand même un Facebook et il y a quand même 1000 personnes qui aiment leur site, quoi. Donc, juste
mais c'est juste leur carte MEDEF, hein. Sûrement.
Ouais, sûrement, hein. Après je suis pas allée voir, moi je fais pas de flicage.
Regarde s'ils ont des têtes et des têtes de cons et de connes et c'est bon.
Et donc en gros, pour avoir ce logiciel, faut prévenir le salarié. que son ordinateur est sous surveillance, et il faut déposer un dossier à la CNIL.
Dans les faits, on sait ce que c'est.
Voilà. Mais bon.
Enfin, un patron qui en arrive jusqu'à là, ça m'étonnerait qu'il se fasse chier à aller voir la CNIL et.
Non, mais voilà, après, c'est illégal et il faut encore le prouver. Quoi.
Qu'est-ce qu'il nous fait ce joli petit logiciel alors?
Alors, en fait, fonctionnement, il enregistre toutes les touches du clavier. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il y a une combinaison qui semble pas correcte, il y a un mail qui est envoyé. Ça veut dire
que quand mon patron me faisait chier, que j'écrivais, je faisais semblant de coder, que je disais mon patron est un gros bâtard.
Tout à fait. Bah là, ça lui envoie un mail.
Même ça, il le saura.
Ça lui envoie un mail. Bon, tous les sites internet visités. Donc, vous êtes vendredi soir, vous voulez prendre un billet de train pour entrer en province vite fait. Ben non, pas du boulot. Là encore, c'est un mail envoyé au patron directement, avec bien sûr date, heure et nom de l'utilisateur. Et une capture d'écran par seconde quand même, qui est tout autant datée. Ce qui est bien, c'est que le logiciel est invisible. C'est-à-dire qu'on peut même pas le désinstaller. Bref.
Sauf à casser l'ordi, évidemment.
Ouais, voilà. Et en fait, la personne qui a créé ça, c'est quand même un informaticien. Donc là, ça me fait encore plus mal au cœur.
Des informaticiens salauds,
bien sûr, il y en a à l'appel. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils ont les neurones qui se touchent, ils ont pas dû bien comprendre le but, logiciel libre, tout ça, ça doit pas...
C'est trop subversif.
Ouais, désolé. Et donc, pour ça, c'est 790 € par ordi, hors taxe. Et ce mec-là, je citerai pas son nom, on va pas non plus lui pourrir sa vie, quoique. il est cité sur plein, quoi. Bien sûr, il a eu plein d'articles.
Le Figaro,
quoi, son
le
nom,
Point, l'Express, tous les,
ouais, voilà.
Tous les journaux de gauche, quoi.
sur 01.net, qui est quand même un site internet sur l'informatique. Et il dit dedans, dans cet article, j'estime qu'on ne peut plus faire confiance à ses salariés. Les patrons se saignent, donnent beaucoup et ne reçoivent rien en échange.
Je savais pas que Cosette était un patron, quoi.
Deux observations. Donc, également faire très attention quand vous vous connectez à votre boîte personnelle à partir de votre bureau, comme disait Karine tout à l'heure. Quand on peut enregistrer la séquence des touches, vous imaginez bien que donc on peut enregistrer tout doucement votre mot de passe pour accéder à votre compte personnel. Ce qui se fait d'ailleurs. Donc ne l'oubliez pas. Donc on peut regarder Gmail peut-être un peu plus performant à ce niveau-là, mais même il y a des lacunes. Et de toute façon, on peut toujours faire échec à tout ça, mais au moins voir à partir de quelle adresse IP votre dernière connexion s'est faite.
Bah déjà, si possible, de ne jamais enregistrer ses mots de passe perso.
C'est sûr. C'est évident. Mais du moment où toutes les touches du clavier sont enregistrées, de toute manière, tout est enregistré après et signalé au patron que ce qui peut poser problème pour le patron. Il suffit de faire une requête toute bête, je suppose, pour avoir tout ce qui a été enregistré. Donc tous les mots de passe sur tout ce que vous voulez, tout est enregistré, quoi. Cet homme-là, c'était un monsieur qui répare les ordis et qui avait énormément de patrons qui venaient avec leur bécane. Oh, la bécane, elle est encore plantée. Son axe d'attaque, c'était, il y a encore des virus dessus. Il va falloir checker ce que font mes salariés. Et c'est pour ça qu'il a créé ça. C'est clairement dégueu. Je voulais en parler, et c'est surveillemonsalarié.com au cas où si quelqu'un passe par là et qui s'y connaît un petit peu.
N'en dis pas plus.
Voilà, non mais rien de spécial. Sinon, il y a aussi le logiciel Hostwatch. À la base, c'est un logiciel de suivi de trafic. Ouais. Tout à fait. Et ça permet aussi de visualiser en temps réel, en fait, tout ce que vous faites, tout ce que vous visitez. Ça. Donc là, c'est plus les pages internet visitées, mais bon, quand même, on peut tous avoir une urgence au boulot pendant sa pause et faire sa pause devant son ordi. Quoi, moi, la plupart des personnes avec qui je bossais en open space, c'était des gros geeks, ils n'avaient pas fumé parce qu'ils étaient sains et ils restaient devant leur ordi à faire des trucs.
Et toi, tu fais autre chose que de travailler au travail? C'est pas normal.
Bah ouais. Il y a aussi, il y a tout ce qui est logiciel de prise en main à distance. Donc là, c'est visible quand même. Quand on est sur son ordinateur, on voit bien qu'on contrôle plus rien. Mais bon, quoi, ça existe quand même, donc PC Anywhere ou VNC. Quoi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que la plupart du temps, ils passent par les administrateurs réseau des boîtes pour faire le boulot. En gros, ben toi, tu vas checker ce que fait cet utilisateur-là.
Et toujours être copain avec l'administrateur réseau, c'est très important.
Sauf que ces personnes-là, elles ont quand même le droit de refuser. Et qu'il faut savoir que si l'utilisateur attaque en procès, donc c'est les administrateurs qui seront mis en cause devant la justice. Donc bon. J'ai envie de dire, restons solidaires.
Toujours avoir un paquet de bonbons.
Vous allez voir, donc chaque plateau de téléconseiller, vous avez toujours une ou deux personnes qui sont attitrées à faire ce flicage. Donc, je vais pas citer les noms, par exemple, dans ma société, mais donc.
Je suis pas sûr qu'on ait le droit.
Non, je pense pas, mais donc on peut très bien les nommer à part. Mais donc effectivement, sur chaque plateau, chaque étage, vous avez une à deux personnes qui sont attitrées à vérifier tout ce qui se passe au niveau des mails, des accès aux bases de données, ainsi de suite. Ça existe.
Oui, bien sûr.
Je vais parler aussi d'un autre super truc, c'est une imprimante qui permet de fliquer ses salariés. Au sens premier, alors. Alors, c'est Canon qui a bien compris que la paranoïa sécuritaire de certaines entreprises pouvait être un argument de vente à exploiter. Donc, ils ont prévu de sortir un machin qui s'appelle Uniflow 5. Donc 5, je suppose que ça doit être parce que ça doit être le cinquième numéro de cette saloperie.
Donc en gros, si on voit dans son open space ou dans son lieu de travail cette imprimante, c'est sur cette imprimante qu'il faut faire tomber son café, en fait.
Exactement. D'accord. Ou mettre son chewing-gum. Alors, c'est un nouveau système de gestion d'imprimante qui est capable d'empêcher les utilisateurs d'imprimer ou de copier des documents qui contiennent certains mots. Grâce à un super système de sécurité intelligent basé sur des mots-clés, et ensuite ça dénonce ton forfait à l'administrateur réseau. Alors Uniflow, c'est un système de gestion de documents qui existe depuis longtemps déjà, qui permet de contrôler les imprimantes, les scanners et les photocopieurs de manière centralisée. C'est un outil qui conserve le compte des impressions de chaque utilisateur à la fin de facturation. Alors la dernière version d'Uniflow, elle possède un système de sécurité intelligent, donc comme j'ai dit, basé sur des mots-clés. Alors une fois que c'est configuré par un admin réseau, le système peut empêcher un utilisateur d'imprimer, de scanner, de copier ou de faxer un document qui contient un des mots-clés prohibés, tel que le nom d'un client ou le nom d'un code projet. Mais enfin, bon, ça c'est l'argument que sortiront les boîtes, comme on en parlait tout à l'heure, la confidentialité, l'espionnage industriel, mais non. C'est surtout pour s'attaquer aux méchants syndicalistes. Alors non seulement l'imprimante, elle peut espionner les documents, mais elle peut aussi dénoncer les salariés fautifs. Comme ça, moi, on fait d'une pierre deux coups. C'est après pression et ensuite on balance, quoi. Après censure d'un document, le serveur, il envoie par courriel à l'administrateur une copie PDF du document en question, au cas où un utilisateur s'y essaie, quoi. Donc le système, il peut aussi optionnellement informer l'utilisateur par courriel que sa tentative a été bloquée, mais sans identifier le mot-clé responsable. Comme ça, au moins, la sécurité du système est maintenue, pardon. Alors, la détection des mots-clés du Uniflow 5 se base sur un système de reconnaissance optique de caractère, ça s'appelle OCR, hein, bon, j'en sais rien, j'en sais pas plus, dont la licence est détenue par une firme belge qui s'appelle Iris. Canon Angleterre a confirmé qu'un utilisateur éclairé et déterminé ayant repéré un des mots-clés peut contourner le système en remplaçant une lettre par une autre ou un chiffre ressemblant comme, par exemple, ZO, on peut l'écrire Z et 2-0. Mais à mon avis, ça va être quand même bien vicieux, hein, de réussir à savoir.
Donc en gros, faut faire des fautes dans ces tracts syndicaux, voilà. Quoi.
Camarades, abandonnez l'orthographe. L'orthographe vous tuera. Alors l'argument de vente est bien entendu la protection de données confidentielles. Il y a tellement d'entreprises qui vivent dans une paranoïa là-dessus, quoi. Mais bon, ça c'est le règlement à la con. Et c'est cette paranoïa qui les pousse à inscrire des clauses de confidentialité dans les contrats de travail. On en parlait tout à l'heure. Enfin, de toute façon, on revient toujours sur ces fameuses clauses de confidentialité. En fait, c'est un gros ferme ta gueule, quoi. Qui s'avère bien ridicule quand le salarié découvre à posteriori la nature de son travail. Enfin, c'est clair, quand tu vois les clauses de confidentialité, t'as l'impression que tu bosses sur du nucléaire ou du machin, alors qu'en fait, tu te retrouves à faire des logiciels à la con, des sites vraiment bidon, quoi, pour le fleuriste du coin, quoi. Je vous laisse évidemment imaginer que si tu tapes grève ou syndicat ou anarchisme ou je vais faire sauter cette société pourrie, il y a des grandes chances que vous ayez du mal à imprimer, quoi. Donc à vous de deviner si c'est anarchisme ou société pourrie qui passe pas, quoi. Alors à ceux qui veulent imprimer ces tracts, comme tu l'as dit, Karine, donc où ils mettront grève, mon patron est un con, ou tralali tralala, il faudra bien regarder la marque de l'imprimante et son modèle, quoi. Donc il faut bien retenir, hein, c'est Uniflow 5. Donc en gros, ils ont inventé un nouveau Canon. Slogan Canon, c'est salarié voyou, Canon te retrouvera partout.
Ouais, c'est ça. Ce qui est super marrant, c'est que, bon, je suis pas certaine que ce soit qu'en France. Par contre, en Allemagne, dans les pays nordiques, toutes ces méthodes d'optimisation de productivité, elles ont été interdites. Tout simplement parce que, ben, c'est une atteinte à la vie privée, quoi. Et, ben, là-dessus, il faudrait grave qu'on se mobilise, qu'on lutte.
C'est quoi vie privée? Je comprends pas.
Eh ben, c'est le droit justement de faire des tracts syndicaux,
c'est le truc que tu vis,
pouvoir
c'est ça,
lutter ou... et puis pouvoir dire que ton patron est un con, ce genre de choses. Ben, pour lutter contre tout ça quand même, bon, on parlait de faire gaffe avec les mails, ce que vous mettez dans la tête, où vous les mettez dans le corps du message, juste supprimer ses cookies. Supprimer son historique, si possible suppression des mails perso, avoir des délégués du personnel parce que eux seront avant vous au courant de s'ils commencent à parler d'utiliser des logiciels pour surveiller les salariés, donc vous pourrez lutter avant que ce soit mis en place, parce qu'une fois que c'est mis en place et qu'on vous dit, parce qu'effectivement ils doivent vous informer de la mise en œuvre de la surveillance, mais comment dire, ben non, moi je veux pas être surveillé, parce que leur argument ce sera clairement, ben si t'as rien à cacher, pourquoi tu veux pas être surveillé, ben on a tous quelque chose à cacher, quoi.
Ben, c'est pas caché, mais c'est notre vie personnelle.
Non, voilà. Moi,
tout simplement, c'est même pas une question de cacher, mais c'est d'avoir une vie perso privée à côté du travail, où on passe 8 heures, 9 heures, 10 heures en fonction des heures sup non payées. Hein,
ouais, évitons ça aussi.
Exactement. Hein, donc ils nous prennent déjà donc à certains horaires, bah, donc limitons à ces horaires-là.
Bah, ça c'est clair.
Et ne faisons pas du travail en su.
Ouais. Et bah voilà, être informé c'est quand même la base.
Maintenant, se syndiquer, c'est encore mieux.
Ouais, oui, le but, après, effectivement, c'est s'organiser pour lutter, donc dans des syndicats, dans des organisations.
Et faire travailler, surtout, comme tu disais, Karine, donc voir avec les DP, mais surtout les inciter et les mettre sous pression. Parce que donc ouais. Même si on n'est pas présent avec un syndicat CNT, c'est de mettre sous pression tous les syndicats, toutes les bannières confondues, avec nos questions typiques de CNTistes. Directement, c'est d'être présent chez ces IRP, donc les instances représentatives du personnel, DP, CE, CHCT, d'être présent avec des questions qui leur font mal et qui ne se cachent pas derrière leur le fait que ce soit confidentiel, parce que donc à chaque fois on entend ce que vous avez entendu, ce que vous avez écouté durant cet entretien dans le CE ou CHET, ça doit rester confidentiel vis-à-vis des autres salariés. Non. Exigeons d'abord de nos propres DP, personnes qui nous représentent au CE, CHET, de dévoiler donc tout ce qui se passe derrière en coulisses, parce que donc on va leur demander des comptes.
Et ça inclut aussi de se mobiliser quand il y a une élection de DP, c'est-à-dire bon, pour pas laisser passer les jaunes,
tout à fait.
Pour avoir quelqu'un qui vous représente vraiment. Donc, j'aurais jamais cru dire ça, mais allez voter pour avoir quelqu'un qui vous représente, quoi. Quelqu'un qui vous transmettra les infos, parce que c'est quand même son boulot, c'est d'être intermédiaire entre ben, le patronat.
L'idéal,
et,
c'est quand même d'être formé. L'idéal, c'est quand même d'être tous formés, quoi.
Ouais.
Dans la pratique, on voit que c'est généralement l'inverse qui se passe. Ils sont utilisés tout simplement en tant que laquais du patronat pour simplement occulter tout ce qui se passe derrière les coulisses, parce qu'ils sont très bien au courant, mais ils diffusent pas donc la.
Ils font très bien leur boulot aussi.
Oui. Mais généralement, ce qu'on voit, si on n'est pas présent avec des personnes vraiment de combat, de terrain, donc on voit que c'est l'inverse qui se passe.
Et puis il y a encore énormément de boîtes. En tous les cas, dans tout ce qui est web, qui ont pas de DP. Et vu que ben, il y a toujours un problème avec l'informaticien, c'est que l'informaticien, peut-être pas tous. Hein, je veux pas non plus généraliser maximum, mais c'est qu'il est super content de faire son boulot et d'être payé pour ça. Mmh. Et du coup, tout ce qui est droit du travail, heures sup non payées, tout ça. Attendez, moi c'est super bien. Je suis à un bureau. J'ai de quoi me faire du café et je suis même pas dans ma cave. Quoi, voilà, il y a un moment, faut quand même ouvrir les yeux et se rendre compte que ben c'est pas ça, quoi. Et oui, lire la Boétie, la servitude volontaire
ou le contrequin.